Chapitre 8. Accepter la vieillesse et la mort. Bonjour Anna.
Bonjour Mario.
Anna, j'ai senti l'urgence dans ta voix quand tu m'as appelé au téléphone pour que vous puissiez me rencontrer le plus rapidement possible. Que se passe-t-il? Qu'a-t-il pu vous arriver depuis un mois pour que vous ayez l'air si triste tous les deux? Mario s'empresse de me répondre avant même d'avoir fini d'enlever son manteau.
Lise, tu ne pourras pas croire ce qui nous arrive, et en plus la même semaine. Je me demande ce que nous avons fait au bon Dieu pour qu'il nous éprouve à ce point-là. Le fils de ma sœur Louisette s'est suicidé la semaine dernière, puis le lendemain, nous apprenions que le père d'Anna s'est cassé une jambe et qu'il ne pourra plus retourner sur le marché du travail à cause de l'état de ses os. Il paraît que ses os sont très usés, comme s'ils avaient vieilli trop vite. Le médecin a dit que, bien qu'il n'ait que 64 ans, il a les os d'une personne de plus de 80 ans.
Bon, prenez le temps de vous asseoir, de bien respirer et prenez un verre d'eau. C'est toujours une très bonne idée de boire beaucoup d'eau lorsque nous vivons des émotions. Ça calme.
Je vais te parler de mon neveu qui s'est suicidé et ensuite Anna te parlera de son père. Ma sœur Louisette était dans tous ses états lorsqu'elle m'a appelée pour m'annoncer en pleurant qu'elle avait trouvé son fils pendu dans sa chambre. Il n'avait que 18 ans. Selon moi, jamais elle ne s'en remettra. Tu imagines? Découvrir son propre fils pendu, les policiers qui envahissent la maison, l'enquête criminelle qui s'ensuit, les interrogatoires interminables qu'elle et son mari doivent subir. J'ai encore de la difficulté à le croire. Elle m'a appelé le lendemain, après que son fils eût été transporté chez le coroner pour une autopsie. Anna et moi, nous nous sommes empressés d'aller chez elle, même si elle habite à 4 heures de route de chez nous. J'ai eu l'impression qu'elle avait vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'ai vue, il y a à peine 3 semaines. Elle a toujours été ma sœur préférée, mais je ne savais pas quoi faire pour l'aider. Pourquoi une telle chose lui arrive-t-elle? Je sais que d'autres parents ont sûrement vécu la même chose, mais quand c'est dans la famille, ce n'est pas pareil. Sapristi, que la vie est dure parfois. Mon beau-frère, lui, m'inquiète encore plus. Il reste assis, fixe le mur et ne veut parler à personne. Il est comme un zombie. Il ne mange pas et ne pleure même pas. Il me semble que s'il piquait une bonne crise, ça lui ferait du bien. Ma sœur, au contraire, ne fait que pleurer. Pourquoi la vie est-elle si difficile?
Je suis désolée d'entendre une aussi triste nouvelle. Ce n'est jamais facile d'apprendre le décès d'un proche, encore moins un décès de ce genre. C'est tout à fait normal que ce soit un choc pour toute la famille. Est-ce que les parents avaient déjà entendu leur fils parler de suicide?
Non. C'est pour ça que c'est un si grand choc. Mon neveu, Luc, a toujours été un garçon timide, effacé, très peu démonstratif. Il réussissait bien à l'école. Il avait arrêté ses études depuis un an, ne sachant pas trop dans quelle voie se diriger. Il disait qu'une année sabbatique lui ferait du bien. Il avait du talent dans tout et aurait pu faire une belle carrière dans plusieurs domaines, surtout en informatique. Il avait trouvé un emploi dans un entrepôt. Il ne parlait pas vraiment de son travail. Il disait seulement que c'était convenable pour le moment et que ça lui permettait de payer ses dépenses. Il vivait encore chez ses parents. À la maison, il passait presque tout son temps dans sa chambre devant son ordinateur. Il sortait de temps à autre, mais avait peu d'amis. Louisette m'a même avoué qu'elle se demandait parfois si son fils n'était pas homosexuel, vu qu'il n'avait encore jamais fréquenté une fille assidûment, mais elle n'osait pas lui en parler. Je dois avouer qu'il était difficile de bavarder avec mon neveu car il répondait en général par un oui, par un non, ou d'une façon très évasive. Mon beau-frère, lui, avait beaucoup de difficultés à accepter son fils, car il aurait voulu avoir un garçon sportif, sociable. Il aurait aimé jouer au golf, faire du ski avec lui, mais il n'arrivait pas à l'approcher. Je crois qu'il se sent terriblement coupable de sa mort, et c'est pour ça qu'en ce moment, il est dans un état aussi pitoyable.
Dis-moi, Mario, pourquoi me dis-tu qu'il t'arrive, à toi, quelque chose de si épouvantable, que Dieu est en train de t'éprouver?
Je sais que le fait que quelqu'un d'aussi jeune choisisse de mourir de cette façon n'est pas une chose facile à accepter. Mais en quoi cela affecte-t-il ta vie? Quelle question! Vraiment, Lise, tu me surprends. Ça affecte la vie de tous ceux qui le connaissent. C'est normal, non? Je ne veux pas parler des autres. Le but de notre rencontre est de vous aider tous les deux, Anna et toi, à passer au travers de cette situation difficile. N'est-ce pas la raison pour laquelle vous vouliez me voir? Oui, c'est bien ça. Alors, pour y arriver, je dois savoir en quoi cette situation est dérangeante pour vous deux, en quoi elle affecte votre vie. Disons que je ne sais pas quoi faire pour aider Louisette, qui a bien besoin d'un coup de main. Je ne peux pas rester chez moi à ne rien faire alors qu'elle souffre tant. D'un autre côté, je ne peux pas toujours être à ses côtés. Si je comprends bien, ce qui est le plus difficile, c'est de voir ta sœur souffrir et de ne pas savoir quoi faire. Te sens-tu impuissant ou égoïste si tu ne trouves pas un moyen pour l'aider? Oui? Alors, supposons que tu ne réussisses pas à l'aider, de quoi as-tu peur pour toi? Je n'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour elle. J'ai peur qu'elle tombe malade, qu'elle fasse une dépression. À la façon dont son mari agit, j'ai peur pour la survie de leur couple. Je ne te l'ai pas dit, mais c'était leur fils unique. C'est donc encore pire pour eux. Ils se retrouvent tous les deux seuls avec leur peine. Comment vont-ils s'en sortir? Tu crois avoir peur pour elle et pour son couple. Mais en réalité, nous avons toujours peur pour nous-mêmes et non pour les autres. C'est notre ego qui essaie de nous faire croire que nous avons peur pour l'autre. Je vous ai parlé de ça au cours d'une visite précédente, alors qu'Anna me parlait de sa peur pour Sandra. Voyez-vous combien l'ego résiste et que, de ce fait, nous avons de la difficulté à enregistrer toutes ces notions nouvelles. Accepter que nous ayons peur seulement pour nous-mêmes signifie que nous prenons notre responsabilité et non celle des autres. Tout ce qui concerne la loi de la responsabilité semble être ce qu'il y a de plus difficile à accepter pour l'ego. Donc, ne vous en faites pas. Je suis habituée d'avoir à répéter ces notions plusieurs fois. Sur le coup, nous croyons les avoir bien saisies, mais nous les oublions rapidement pour revenir à nos anciennes croyances. La conséquence la plus nuisible de croire que nous avons peur pour quelqu'un d'autre est de nous garder dans nos émotions, surtout dans la culpabilité, tant et aussi longtemps que l'autre ne décide pas de faire quelque chose pour changer sa vie. Ainsi, nous nous mettons à la merci des autres. Je reviens à ma question, Mario. De quoi as-tu peur pour toi si ta sœur tombe malade ou éprouve des difficultés de couple suite au suicide de son fils? Mario regarde par terre, soupire longuement et me dit d'une voix basse et lentement. Si ça arrivait, j'aurais beaucoup de difficultés à rendre visite à ma sœur, en sachant que je mène une vie agréable. En fait, une vie qui va de mieux en mieux maintenant. J'aurais donc peur qu'elle me traite de sans-cœur, de poule mouillée, qu'elle me reproche de ne pas l'aider. Crois-tu vraiment que tu es une personne sans cœur? De plus, est-ce que ta sœur s'attend vraiment à ce que ce soit toi qui règles ses problèmes? Est-ce qu'elle t'a demandé de l'aide? Non, elle ne cesse de se lamenter, de dire que la vie est injuste et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle doit subir cette épreuve. Elle se demande comment il se fait que personne ne se soit douté que leur fils était si malheureux. En y réfléchissant, je réalise que je l'ai appelée tous les jours depuis une semaine et qu'elle ne m'a pas demandé de l'aide. Rien ne t'empêche de partager avec elle ce que tu ressens, de lui dire que tu voudrais bien l'aider, mais que tu ne sais pas comment et que tu te sens impuissant. Tu peux lui suggérer de se faire aider dans le privé. Je connais plusieurs personnes qui pourraient les aider, les conseiller, elle et son mari. Souviens-toi, Mario, que tant et aussi longtemps qu'une personne ne demande pas de l'aide, il ne sert à rien de lui imposer la forme d'aide que nous croyons être la bonne pour elle. Toutefois, si elle demande de l'aide et que sa requête est au-delà de nos capacités, nous devons le lui avouer et l'accompagner, si possible, pour trouver la personne qui pourrait lui apporter le soutien nécessaire. Il est normal que ta sœur et son mari soient en état de choc. Après quelques semaines, il sera beaucoup plus facile de leur parler. La meilleure aide que tu puisses leur apporter en ce moment est de leur dire qu'il est tout à fait normal et humain de trouver la vie injuste, et même d'accuser Dieu. Ils doivent aussi se donner le droit de se poser des questions sur la décision de leur fils. Un jour, ils réaliseront qu'ils ne sont pas responsables des décisions des autres et qu'ils ont agi au meilleur de leur connaissance avec leur fils. Tu peux aussi avouer à Louisette ta difficulté d'être bien en ce moment, lorsque tu vois quelqu'un que tu aimes beaucoup être malheureux et que tu ne sais pas comment gérer cela. Il se peut même que tu aies de la difficulté à aller la voir souvent. Donne-toi le droit, pour l'instant, d'avoir des limites et en les lui partageant, tu verras que la gestion de ces limites deviendra plus facile. Il arrive même fréquemment que, dès que nous nous donnons le droit d'avoir des limites, celles-ci se transforment rapidement et nous réalisons que nos limites ne sont pas aussi importantes qu'avant. Malheureusement, il n'existe pas d'école qui explique aux futurs parents quoi faire dans toutes les situations qu'ils pourraient vivre avec un enfant. Généralement, tous les parents sur Terre répètent ce qu'ils ont appris de leurs propres parents, apprennent de leurs expériences et finissent par s'assagir. C'est ainsi que, de génération en génération, le monde évolue. Toi aussi, tu dois accepter que ce suicide t'a pris au dépourvu et t'a mis en contact avec l'impuissance que tu ressens dans certaines situations où tu voudrais aider ce que tu aimes. Nous vivons tous de l'impuissance à un moment donné de notre vie. C'est ça, être humain. Crois-tu sincèrement que ta sœur serait moins malheureuse si tu devenais malheureux à ton tour parce que tu ne peux pas l'aider? Mais non, Louisette m'aime tellement que je suis sûre qu'elle ne veut pas que je sois malheureux. Je me rends compte que c'est moi qui imagine tout ça. J'ai compris ce que je dois faire. Merci, Elise, ça m'éclaire. Et toi, Anna, comment as-tu vécu cette triste nouvelle? Moi, pas du tout comme Mario. Je ne me sens pas obligée d'aider ma belle-sœur, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Tout de suite, je lui ai dit que je me sentais bien gauche, que je ne savais pas trop quoi faire ou dire qui pourrait l'aider, mais que si elle avait besoin de quoi que ce soit, de ne pas hésiter à me le demander. Je me sens plus à l'aise pour lui offrir une aide physique que psychologique. Je lui ai donc offert de retourner la visiter la semaine prochaine pour l'aider à faire son ménage et lui cuisiner plein de petits plats à congeler. Elle m'a remercié avec un triste sourire et j'ai vu dans son regard qu'elle appréciait mon offre. Ce que je trouve le plus difficile dans cette situation, c'est d'imaginer que ça aurait pu arriver à ma fille. À cette idée, le cœur me fait mal et j'ai de la difficulté à respirer. Je me suis empressée d'en parler à Sandra et je lui ai demandé si elle avait déjà pensé au suicide. Elle m'a tout de suite rassurée en me disant que non, qu'elle n'aurait jamais ce courage-là. Courage, drôle de mot pour qualifier un suicide, n'est-ce pas? Eh oui, elle dit que quelqu'un qui pense à se suicider doit avoir beaucoup de courage pour passer à l'action. Il paraît que deux de ses amis lui en ont parlé. L'une a pensé à se trancher les veines du poignet, l'autre a avalé le contenu d'un flacon de pilules. Mais qu'elles n'ont pas eu le courage de le faire. J'imagine que c'est vrai. Ça ne doit pas être une chose facile à faire. J'ai lu sur Internet qu'il y a un nombre toujours grandissant de jeunes qui se suicident, et ce, non seulement au Québec, mais dans plusieurs pays. Sais-tu pourquoi? Personne ne peut véritablement deviner pourquoi quelqu'un prend une telle décision. De toute façon, ça ne nous concerne pas vraiment. Chaque âme a une raison très précise pour être sur Terre, et si elle décide que son plan de vie lui semble trop difficile à atteindre dans cette vie-ci, et qu'elle préfère revenir dans un autre corps, dans une autre vie pour reprendre ce même plan de vie, qui sommes-nous pour dire que cette âme n'a pas le droit de le faire? Cela s'appelle le grand respect de la vie. J'ai appris que très souvent, le suicide d'une personne aidait beaucoup à l'évolution de ses proches. Une chose est certaine, lorsqu'une personne trouve très difficile la mort de quelqu'un de cher, c'est que cette personne doit apprendre le détachement. Nous sommes tenus de comprendre, une fois pour toutes, que personne ne nous appartient. ni les enfants, ni les conjoints, ni les amis, ni les parents. Nous sommes tous des âmes qui ont choisi de faire un bout de chemin ensemble pour apprendre l'amour véritable, pour apprendre l'acceptation. Dans le cas de Louisette et de son mari, tous les deux doivent apprendre à accepter le fait que leur fils ne leur appartenait pas et que cette âme avait des raisons personnelles pour terminer sa vie à 18 ans, et surtout de cette façon. Il se peut qu'il leur faille un certain temps pour arriver à cette acceptation, mais vous savez, Anna et Mario, on peut se donner le droit de ne pas pouvoir accepter maintenant. Pour parvenir à nous donner le droit, nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes d'accord avec le choix de l'autre. Louisette et son mari peuvent ne jamais être d'accord avec le choix de leur fils, ne jamais vraiment comprendre ce qui l'a incité à prendre cette décision et surtout à passer à l'action. Mais en même temps, accepter que leur fils avait ses raisons personnelles et qu'elles lui appartiennent. Elles n'appartiennent pas à ses parents. Je suis bien consciente que ce genre d'acceptation n'est pas facile à faire, mais c'est une grande victoire pour l'âme quand une personne y arrive. Lorsque nous arrivons à cette acceptation totale, c'est une consolation de savoir que nous ne souffrirons plus jamais d'une situation semblable si elle venait à se répéter. Comment vous sentez-vous tous les deux, maintenant que je vous ai rappelé l'importance de l'acceptation afin de moins souffrir? Beaucoup mieux, disent-ils en même temps. Ils se regardent et je peux voir le soulagement dans leur regard.